Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. À nouveau ensemble, donc, pour la suite du roman de Georges Perec, Les choses. Ils allaient rarement au concert, moins encore au théâtre. Mais ils se rencontraient sans s'être donné rendez-vous à la cinémathèque, au Passy, au Napoléon, ou dans ces petits cinémas de quartier, le Kursaal au Gobelin, le Texas à Montparnasse, le Bikini, le Mexico, Place Clichy, l'Alcazar à Belleville, d'autres encore vers la Bastille ou le 15e. Ces salles sans grâce, mal équipées, que semblait ne fréquenter qu'une clientèle composite de chômeurs, d'Algériens, de vieux garçons, de cinéphiles, et qui programmait, dans d'infâmes versions doublées, ces chefs-d'œuvre inconnus dont ils se souvenaient depuis l'âge de 15 ans, ou ces films réputés géniaux dont ils avaient la liste en tête et que depuis des années ils tentaient vainement de voir. Ils gardaient un souvenir émerveillé de ces soirées bénies où ils avaient découvert ou redécouvert, presque par hasard, le corsaire rouge, où le monde lui appartient, où les forbans de la nuit, où My Sister Hélène, où les 5000 doigts du docteur T. Hélas, bien souvent, il est vrai, ils étaient atrocement déçus. Ces films dont on leur avait assuré un peu partout qu'ils étaient admirables, il arrivait parfois qu'ils fussent enfin annoncés. Ils se retrouvaient au complet dans la salle le premier soir. L'écran s'éclairait et il frémissait d'aise. Mais les couleurs dataient. Les images sautillaient, les femmes avaient terriblement vieilli. Ils sortaient. Ils étaient tristes. Ce n'était pas le film dont ils avaient rêvé. Ce n'était pas ce film total que chacun parmi eux portait en lui, ce film parfait qu'ils n'auraient pu épuiser, ce film qu'ils auraient voulu faire ou, plus secrètement sans doute, qu'ils auraient voulu vivre. Ainsi vivaient-ils, eux et leurs amis, dans leurs petits appartements encombrés et sympathiques avec leurs balades et leurs films, leurs grands repas fraternels, leurs projets merveilleux. Ils n'étaient pas malheureux. Certains bonheurs de vivre furtifs, évanescents, illuminaient leur journée. Certains soirs, après avoir dîné, ils hésitaient à se lever de table. Ils finissaient une bouteille de vin, grignotaient des noix, allumaient des cigarettes. Certaines nuits, ils ne parvenaient pas à s'endormir et, à moitié assis, calés contre les oreillers, un cendrier entre eux, ils parlaient jusqu'au matin. Certains jours, ils se promenaient en bavardant pendant des heures entières. Ils se regardaient en souriant dans les glaces des devantures. Il leur semblait que tout était parfait. Ils marchaient librement. Leurs mouvements étaient déliés. Le temps ne semblait plus les atteindre. Il leur suffisait d'être là, dans la rue. Un jour de froid sec, de grand vent, chaudement vêtu, à la tombée du jour, se dirigeant sans hâte mais d'un bon pas vers une demeure amie pour que le moindre de leurs gestes, allumer une cigarette, acheter un cornet de marron chaud, se faufiler dans la cohue d'une sortie de gare, leur apparaisse comme l'expression évidente, immédiate, d'un bonheur inépuisable. Ou bien certaines nuits d'été, ils marchaient longuement dans des quartiers presque inconnus. Une lune parfaitement ronde brillait haut dans le ciel et projetait sur toutes les choses une lumière feutrée. Les rues désertes et longues, larges, sonores, résonnaient sous leurs pas synchrones. De rares taxis passaient lentement, presque sans bruit. Alors ils se sentaient les maîtres du monde. Ils ressentaient une exaltation inconnue, comme s'ils avaient été détenteurs de secrets fabuleux, de forces inexprimables. Et se donnant la main, ils se mettaient à courir ou jouaient à la marelle ou couraient à cloche-pied le long des trottoirs et hurlaient à l'unisson les grands airs de « Così fan tutte » ou de « La messe en si ». Ou bien ils poussaient la porte d'un petit restaurant et avec une joie presque rituelle, ils se laissaient pénétrer par la chaleur ambiante, par le cliquetis des fourchettes, le tintement des verres, le bruit feutré des voix, les promesses de nappes blanches. Ils choisissaient leur vin avec componction, dépliaient leurs serviettes, et il leur semblait alors bien au chaud, en tête à tête, fumant une cigarette qu'ils allaient écraser un instant plus tard, à peine entamés, lorsqu'arriveraient les hors-d'œuvre, que leur vie ne serait que l'inépuisable somme de ces moments propices, et qu'ils seraient toujours heureux, parce qu'ils méritaient de l'être, parce qu'ils savaient rester disponibles, parce que le bonheur était en eux. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, ils allaient manger après avoir eu faim, et toutes ces choses, la nappe blanche de grosse toile, la tache bleue d'un paquet de gitane, les assiettes de faïence, les couverts un peu lourds, les verres à pied, la corbeille d'osier pleine de pain frais, composaient le cadre toujours neuf d'un plaisir presque viscéral, à la limite de l'engourdissement. L'impression presque exactement contraire est presque exactement semblable à celle que procure la vitesse, d'une formidable stabilité, d'une formidable plénitude. À partir de cette table servie, ils avaient l'impression d'une synchronie parfaite. Ils étaient à l'unisson du monde. Ils y baignaient. Ils y étaient à l'aise. Ils n'avaient rien à craindre. Peut-être savait-il un peu mieux que les autres déchiffrer ou même susciter ces signes favorables. Leurs oreilles, leurs doigts, leurs palais, comme s'ils avaient été constamment à l'affût, n'attendaient que ces instants propices qu'un rien suffisait à déclencher. Mais dans ces moments où ils se laissaient emporter par un sentiment de calme plat d'éternité, que nulle tension ne venait troubler, où tout était équilibré, délicieusement lent, la force même de ces joies exaltait tout ce qu'il y avait en elles d'éphémère et de fragile. Il ne fallait pas grand-chose pour que tout s'écroule. La moindre fausse note, un simple moment d'hésitation, un signe un peu trop grossier. Leur bonheur se disloquait. Ils redevenaient ce qu'ils n'avaient jamais cessé d'être, une sorte de contrat, quelque chose qu'ils avaient acheté, quelque chose de fragile et de pitoyable, un simple instant de répit qui les renvoyait avec violence à ce qu'il y avait de plus dangereux, de plus incertain dans leur existence, dans leur histoire. L'ennui avec les enquêtes, c'est qu'elles ne durent pas. Dans l'histoire de Jérôme et de Sylvie, déjà était inscrit le jour où ils devraient choisir. Ou bien connaître le chômage, le sous-emploi. Ou bien s'intégrer plus solidement à une agence, y entrer à plein temps, y devenir cadre. Ou bien changer de métier. Trouver un job ailleurs, mais ce n'était que déplacer le problème. Car si l'on admet aisément, de la part d'individus qui n'ont pas encore atteint la trentaine, qu'ils conservent une certaine indépendance et travaillent à leur guise, si même on apprécie parfois leur disponibilité, leur ouverture d'esprit, la variété de leur expérience ou ce que l'on appelle encore leur polyvalence, on exige en revanche, assez contradictoirement, de tout futur collaborateur qu'une fois passé le cap des 30 ans, faisant ainsi justement dès 30 ans un cap, il fasse preuve d'une stabilité certaine et que soit garantie sa ponctualité, son sens du sérieux, sa discipline. Les employeurs, particulièrement dans la publicité, ne se refusent pas seulement à embaucher des individus ayant dépassé 35 ans, ils hésitent à faire confiance à quelqu'un qui, à 30 ans, n'a jamais été attaché. Quant à continuer comme si de rien n'était, à ne les utiliser qu'épisodiquement, cela même est impossible. L'instabilité ne fait pas sérieux. À 30 ans, l'on se doit d'être arrivé, ou bien l'on n'est rien. Et nul n'est arrivé s'il n'a trouvé sa place, s'il n'a creusé son trou, s'il n'a ses clés, son bureau, sa petite plaque. Jérôme et Sylvie pensaient souvent à ce problème. Ils avaient encore quelques années devant eux, mais la vie qu'ils menaient, la paix toute relative qu'ils connaissaient, ne serait jamais acquise. Tout irait en s'effritant. Il ne leur resterait rien. Ils ne se sentaient pas écrasés par leur travail. Leur vie était assurée, vaille que vaille, bon an, mal an, tant bien que mal, sans qu'un métier l'épuise à lui seul. Mais cela ne devait pas durer. On ne reste jamais longtemps simple enquêteur. À peine formé, le psychosociologue gagne au plus vite les échelons supérieurs. Il devient sous-directeur ou directeur d'agence, ou trouve dans quelque grande entreprise une place enviée de chef de service, chargé du recrutement du personnel, de l'orientation, des rapports sociaux ou de la politique commerciale. Ce sont de belles situations. Les bureaux sont recouverts de moquettes. Il y a deux téléphones, un dictaphone, un réfrigérateur de salon et même parfois un tableau de Bernard Buffet sur l'un des murs. Hélas, pensaient souvent et se disaient parfois Jérôme et Sylvie, qui ne travaillent pas, ne mangent pas, certes, mais qui travaille, ne vit plus. Ils croyaient en avoir fait l'expérience jadis, pendant quelques semaines. Sylvie était devenue documentaliste dans un bureau d'études. Jérôme codait et décodait des interviews. Leurs conditions de travail étaient plus qu'agréables. Ils arrivaient quand bon leur semblait, lisaient leur journal au bureau, descendaient fréquemment boire une bière ou un café, et même ils ressentaient pour le travail qu'ils effectuaient, en traînassant, une sympathie certaine, qu'encourageait la très vague promesse d'un engagement solide, d'un contrat en bonne et due forme, d'une promotion accélérée. Mais ils ne tinrent pas longtemps. Leur réveil était effroyablement maussade. Leur retour chaque soir dans les métros bondés, pleins de rancœur. Ils se laissaient tomber abrutis, sales sur leur divan, et ne rêvaient plus que de longs week-ends, de journées vides, de grasses matinées.
Je marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un quoi qui me rappelle. Je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh, 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 oh. Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne. On allait danser le soir. Je me revois là t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un quoi qui me rappelle. Toujours un quoi qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer. Je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh 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 oh. Oh, 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 oh. l'hiver. Reviens alors dans cet endroit où l'on allait, j'y serais. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle, toujours un coin qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer et je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Je n'aimerai personne d'autre. Je ne t'oublierai pas pour une autre. Tu restes la vie de ma vie. Je n'aimerai personne d'autre.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Les choses, Georges Perec. Il se sentait enfermé, pris au piège, fait comme des rats. Il ne pouvait s'y résigner. Il croyait encore que tant et tant de choses pouvaient leur arriver, que la régularité même des horaires, la succession des jours, des semaines, leur semblait une entrave qu'il n'hésitait pas à qualifier d'infernale. C'était pourtant en tout état de cause le début d'une belle carrière, un bel avenir s'ouvrait devant eux. Ils en étaient à ces instants épiques où le patron vous jauge, un jeune homme, se félicite in petto de l'avoir pris, s'empresse de le former, de le façonner à son image et l'invite à dîner, lui tape sur le ventre, lui ouvre d'un seul geste les portes de la fortune. Ils étaient stupides. Combien de fois se répétèrent-ils qu'ils étaient stupides, qu'ils avaient tort, qu'ils n'avaient en tout cas pas plus de raison que les autres, ceux qui s'acharnent, ceux qui grimpent. Mais ils aimaient leur longue journée d'inaction, leur réveil paresseux, leur matinée au lit avec un tas de romans policiers et de science-fiction à côté d'eux, leur promenade dans la nuit le long des quais et le sentiment presque exaltant de liberté qu'ils ressentaient certains jours, le sentiment de vacances qui les prenait chaque fois qu'ils revenaient d'une enquête en province. Ils savaient bien sûr que tout cela était faux, que leur liberté n'était qu'un leurre. Leur vie était plus marquée par leur recherche presque affolée de travail, lorsque, cela était fréquent, une des agences qui les employait faisait faillite ou s'absorbait dans une autre plus grande, par leur fin de semaine où les cigarettes étaient comptées, par le temps qu'ils perdaient certains jours à se faire inviter à dîner. Ils étaient au cœur de la situation la plus banale, la plus bête du monde. Mais ils avaient beau savoir qu'elle était banale et bête, ils y étaient cependant. L'opposition entre le travail et la liberté ne constituait plus depuis belle lurette, s'était-il laissé dire, un concept rigoureux, mais c'est pourtant ce qui les déterminait d'abord. Les gens qui choisissent de gagner d'abord de l'argent, ceux qui réservent pour plus tard, pour quand ils seront riches, leur vrai projet, n'ont pas forcément tort. Ceux qui ne veulent que vivre et qui appellent vie la liberté la plus grande, la seule poursuite du bonheur, l'exclusif assouvissement de leurs désirs ou de leurs instincts, l'usage immédiat des richesses illimitées du monde, Jérôme et Sylvie avaient fait leur ce vaste programme, ceux-là seront toujours malheureux. Il est vrai, reconnaissait-il, qu'il existe des individus pour lesquels ce genre de dilemme ne se pose pas, ou se pose à peine, qu'ils soient trop pauvres et n'aient pas encore d'autre exigence que celle de manger un peu mieux, d'être un peu mieux logé, de travailler un peu moins, ou qu'ils soient trop riches, au départ, pour comprendre la portée ou même la signification d'une telle distinction. Mais de nos jours et sous nos climats, de plus en plus de gens ne sont ni riches ni pauvres. Ils rêvent de richesse et pourraient s'enrichir. C'est ici que leur malheur commence. Un jeune homme théorique qui fait quelques études, puis accomplit dans l'honneur ses obligations militaires, se retrouve vers 25 ans nu comme au premier jour, bien que déjà virtuellement possesseur, de par son savoir même, de plus d'argent qu'il n'a jamais pu en souhaiter. C'est-à-dire qu'il sait avec certitude qu'un jour viendra où il aura son appartement, sa maison de campagne, sa voiture, sa chaîne haute fidélité. Il se trouve pourtant que ces exaltantes promesses se font toujours fâcheusement attendre. Elles appartiennent, de par leur être même, à un processus dont relève également, si l'on veut bien y réfléchir, le mariage, la naissance des enfants, l'évolution des valeurs morales, des attitudes sociales et des comportements humains. En un mot, le jeune homme devra s'installer. Et cela lui prendra bien 15 ans. Une telle perspective n'est pas réconfortante, nul ne s'y engage sans pester. « Et quoi, se dit le jeune émoulu, vais-je devoir passer mes jours derrière ces bureaux vitrés au lieu de m'aller promener dans les prés fleuris? Vais-je me surprendre plein d'espoir les veilles de promotion? Vais-je supputer? Vais-je intriguer? Vais-je mordre mon frein, moi qui rêvais de poésie, de train de nuit, de sable chaud ?» Et croyant se consoler, il tombe dans les pièges des ventes à tempérament. Lors, il est pris et bien pris, il ne lui reste plus qu'à s'armer de patience, hélas. Quand il est au bout de ses peines, le jeune homme n'est plus si jeune, et comble de malheur, il pourra même lui apparaître que sa vie est derrière lui, qu'elle n'était que son effort et non son but. Et même s'il est trop sage, trop prudent, car sa lente ascension lui aura donné une saine expérience, pour oser tenir de tels propos, il n'en demeurera pas moins vrai qu'il sera âgé de 40 ans, et que l'aménagement de ses résidences principales et secondaires et l'éducation de ses enfants auront suffi à remplir les maigres heures qu'il n'aura pas consacrées à son labeur. L'impatience, se dirent Jérôme et Sylvie, est une vertu du XXe siècle. À 20 ans, quand ils eurent vu ou cru voir ce que la vie pouvait être, la somme de bonheur qu'elle recelait, les infinies conquêtes qu'elle permettait, etc., ils surent qu'ils n'auraient pas la force d'attendre. Ils pouvaient, tout comme les autres, arriver. Mais ils ne voulaient qu'être arrivés. C'est en cela sans doute qu'ils étaient ce qu'il est convenu d'appeler des intellectuels. Car tout leur donnait tort. Et d'abord la vie elle-même. Ils voulaient jouir de la vie, mais partout autour d'eux, la jouissance se confondait avec la propriété. Ils voulaient rester disponibles et presque innocents, mais les années s'écoulaient quand même et ne leur apportaient rien. Les autres avançaient, chargés de chaînes peut-être, mais eux n'avançaient pas du tout. Les autres finissaient par ne plus voir dans la richesse qu'une fin, mais eux, ils n'avaient pas d'argent du tout. Ils se disaient qu'ils n'étaient pas les plus malheureux. Ils avaient peut-être raison, mais la vie moderne excitait leur propre malheur, alors qu'elle effaçait le malheur des autres. Les autres étaient dans le droit chemin. Eux n'étaient pas grand-chose, des gagne-petits, des francs-tireurs, des lunatiques. Il est vrai d'autre part qu'en un certain sens, le temps travaillait pour eux et qu'ils avaient du monde possible des images qui pouvaient paraître exaltantes. C'était un réconfort qu'ils s'accordaient à trouver piètre. Ils s'étaient installés dans le provisoire. Ils travaillaient comme d'autres font leurs études, ils choisissaient leurs horaires. Ils flânaient comme seuls les étudiants savent flâner. Mais des dangers les guettaient de toutes parts. Ils auraient voulu que leur histoire soit l'histoire du bonheur. Elle n'était trop souvent que celle du bonheur menacé. Ils étaient encore jeunes, mais le temps passait vite. Un vieil étudiant, c'est quelque chose de sinistre. un raté, un médiocre, c'est plus sinistre encore. Ils avaient peur. Ils avaient du temps libre, mais le temps travaillait aussi contre eux. Il fallait payer le gaz, l'électricité, le téléphone. Il fallait manger chaque jour, il fallait s'habiller, il fallait repeindre les murs, changer les draps, donner le linge à laver, faire repasser les chemises, acheter des chaussures, prendre le train, acheter des meubles. L'économique parfois les dévorait tout entier. Ils ne cessaient pas d'y penser. Leur vie affective, même dans une large mesure, en dépendait étroitement. Tout donnait à penser que quand ils étaient un peu riches, quand ils avaient un peu d'avance, leur bonheur commun était indestructible. Nulle contrainte ne semblait limiter leur amour. Leur goût, leur fantaisie, leur invention, leurs appétits se confondaient dans une liberté identique. Mais ces moments étaient privilégiés, il leur fallait le plus souvent lutter. Au premier signe de déficit, il n'était pas rare qu'ils se dressent l'un contre l'autre. Ils s'affrontaient pour un rien, pour 100 francs gaspillés, pour une paire de bas, pour une vaisselle pas faite. Alors pendant de longues heures, pendant des journées entières, ils ne se parlaient plus. Ils mangeaient l'un en face de l'autre, rapidement, chacun pour soi, sans se regarder. Ils s'asseyaient chacun dans un coin du divan, se tournant à moitié le dos, l'un ou l'autre, faisaient d'interminables réussites. Entre eux se dressait l'argent. C'était un mur, une espèce de butoir qu'ils venaient heurter à chaque instant. C'était quelque chose de pire que la misère, la gêne, l'étroitesse, la minceur. Ils vivaient le monde clos de leur vie close, sans avenir, sans autre ouverture que des miracles impossibles, des rêves imbéciles qui ne tenaient pas debout. Ils étouffaient. Ils se sentaient sombrés. Ils pouvaient certes parler d'autre chose, d'un livre récemment paru, d'un metteur en scène, de la guerre ou des autres, mais il leur semblait parfois que leur seule vraie conversation concernait l'argent, le confort, le bonheur. Alors le ton montait, la tension devenait plus grande, ils parlaient et tout en parlant, ils ressentaient tout ce qu'il y avait en eux d'impossible, d'inaccessible, de misérable. Ils s'énervaient, ils étaient trop concernés. Ils se sentaient mis en cause implicitement l'un par l'autre, ils échafaudaient des projets de vacances, de voyages, d'appartements et puis les détruisaient rageusement. Il leur semblait que leur vie la plus réelle apparaissait sous son vrai jour, comme quelque chose d'inconsistant, d'inexistant. Alors ils se taisaient, et leur silence était plein de rancœur. Ils s'en voulaient à la vie, et parfois ils avaient la faiblesse de s'en vouloir l'un à l'autre. Ils pensaient à leurs études gâchées, à leurs vacances sans attrait, à leur vie médiocre, à leur appartement encombré, à leurs rêves impossibles. Ils se regardaient, ils se trouvaient laids, mal habillés, manquant d'aisance, renfrognés. À côté d'eux, dans les rues, les automobiles glissaient lentement. Sur les places, les affiches de néons s'allumaient tour à tour. Aux terrasses des cafés, les gens ressemblaient à des poissons satisfaits. Ils haïssaient le monde. Ils rentraient chez eux à pied, fatigués. Ils se couchaient sans se dire un mot.
Voilà donc pour ce soir donc la suite de ce roman de Georges Perec, Les Choses, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.